After the holidays, there's so much to clean up and get ready for the coming year. This leaves me exhausted and a lot of things falling off my to-do list. It's time to lock in, and Omaha Steaks delivers everything you crave to reset after the holidays. An order from them means having high-quality Omaha Steaks on hand at all times. I'm a big meat lover myself, and I always go with medium rare, but there's also plenty of poultry and other options available. Omaha Steaks offers unrivaled quality and variety, and every bite is backed by their 100% guarantee. A family-owned company with over 100 years of expertise in the meat industry. Let Omaha Steaks deliver high-quality proteins right to your door. Visit omahasteaks.com for 50% off site-wide during their end-of-season sale. And for an extra $35 off, use promo code YUM at checkout. That's omahasteaks.com, promo code YUM. Terms apply. See site for details. Go to www.omahasteaks.com to get 50% off site-wide during their end-of-season sale. And use promo code YUM at checkout for an extra $35 off. Minimum purchase may apply. Thanks to Omaha Steaks for sponsoring us.
Bienvenue à notre podcast Côté sombre. Je m'appelle Jennifer.
Et je suis Colin.
Je vous parle de crime.
Et je fais mon possible.
Hello!
Bonsoir, Jennifer. Comment ça va?
J'étais fâchée après Lady Bianca aujourd'hui.
My God!
Mais je sais pas pourquoi. Ben. D'habitude, tu sais, d'habitude, elle fait pas ça, là. De 4h du matin à 6h du matin, elle me réveillait. Elle arrêtait pas de me réveiller. Elle grattait sur le mur, elle grattait un cadre, elle me sautait dessus, elle me donnait des tapes d'en face. J'étais allée voir, elle avait de la bouffe, elle avait de l'eau. J'y ai donné des minouches. Ben, je sais pas ce qu'elle voulait. Mais sinon, ça va.
Good.
J'étais fâchée après mon chat.
On est allé à une fête de bébé, puis c'était super fun parce que nos chers amis ont comme le meilleur, plus chill bébé du monde. Asti qui est cute. Puis après ça, on est allé manger au petit, au Belle Tonki.
La Belle Tonki, oh c'est tellement bon.
God.
C'est bon, les soupes. Là.
Oh my God. C'était bon. Belle journée de famille.
Oui.
C'était nice.
Oui.
Cool, cool.
Gang, si vous voulez voir des photos, vous êtes curieux de voir des photos du cas, on en met sur nos réseaux sociaux maintenant, surtout sur notre Instagram. Alors, vous pouvez aller voir les photos en lien avec l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Colin, es-tu prêt?
Non! Pas tout.
Prêt, pas prêt? J'y vais.
Oh! L'histoire que tu as contée la dernière fois pour l'épisode exclusif pour Patreon.
Ouais. C'était lourd. Hein?
Je me suis pas remis de cette histoire encore.
Oh.
My God, que c'était grave.
Tristesse.
Si tu veux checker ça, patreon.com/côté sombre, c'est là que ça se passe.
Prêt, pas prêt?
Oh boy.
J'y vais. Prendre la décision de tuer quelqu'un, c'est le genre de chose qu'on considère impensable.
Yeah.
Pas juste pour toi, pas juste pour moi, mais pour la majorité des gens sur cette planète. C'est une limite qu'on ne franchira pas, même en pensée.
Well...
Ben, non, mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, il y en a qui se font quasiment des plans dans leur tête. Là,
well, yeah,
je veux dire,
c'est différent.
Oui, Bianca, je l'aurais sacré par la fenêtre, mais...
Tu étais loin de prendre action de ces pensées.
Ben non, c'est ça.
C'est ça.
En 2026, c'est encore plus difficile à comprendre les gens qui prennent cette décision-là de tuer quelqu'un parce que, tu sais, oui, il y a l'horreur du geste, mais il y a aussi... Ben, la réalité, en fait, comment tu peux penser t'en sortir?
Yeah, c'est pas civilisé, c'est barbare. Puis avec toute la technologie maintenant, ADN, empreinte digitale, les caméras qui sont fucking partout, tracer votre cellulaire, blablabla, les caméras qui tracent les plaques, c'est...
Comment tu peux t'en sortir, c'est ça?
Non, that's it.
On vit dans un monde où tout laisse une trace en ce moment. Mm-hmm. Je viens de le nommer, caméra, cellulaire, géolocalisation, message effacé, mais jamais vraiment disparu, parce que même quand tu effaces un message, c'est possible d'aller le retrouver.
Oh, hell yeah!
À moins que tu habites dans une cabane au milieu du néant, c'est presque impossible de faire quelque chose d'aussi grave sans que ça finisse par monter à quelques autorités, finalement.
C'est ça, il faut comme faker ton mort puis effacer toutes les traces de ton existence.
Mais tu sais, même l'aspect logistique de tout ça, c'est pas la... C'est le moins pire, selon moi, parce que le plus dur à concevoir, c'est l'aspect humain, moral, mm-hmm. parce que au final, un meurtre, c'est pas juste un crime. Oui, c'est un crime, mais c'est choisir d'enlever la vie à quelqu'un. C'est décider que l'autre mérite plus d'exister. Puis pour en arriver là, il faut être rendu vraiment fucking loin dans son sombre intérieur. Il faut avoir quelque chose qui éteint dans ton dedans.
C'est ça. Puis t'es qui pour prendre cette décision-là?
Fuck off. T'es qui, toi? C'est ça.
T'es qui, toi? Penses que t'es big, toi? Non, t'es juste une croquette de merde.
Puis là où ça devient encore plus troublant, c'est quand il y a plusieurs personnes...
Ça, c'est wild.
...qui s'entendent.
Un complot de meurtre.
Parce que une seule personne qui dérape, ben c'est déjà incompréhensible. Mais plusieurs adultes ensemble qui se regardent dans les yeux, là, puis qui en parlent, puis qui planifient, puis qui se disent « Ben oui, c'est une bonne idée, ça.
Mm-hmm. »
Genre, comment ça se fait qu'il y a personne là-dedans qui dit non? Ça n'a pas de sens. Comment ça se fait qu'il n'y a personne, mettons, qui va ramener l'autre sur Terre? Hey, oh, ça n'a pas de...
Il y a Sean dans le coin. Guys, je pense que c'est pas la meilleure idée. Ferme ta gueule, Sean, on est en train de planifier un meurtre.
C'est ça, c'est l'entente. Ça rend encore ça plus incompréhensible, selon moi. Bon, l'histoire d'aujourd'hui, c'est justement une histoire... Tout s'effondre tranquillement. Il y a des mensonges. Il y a un mariage vide. Puis malheureusement, de l'argent. Whidbey Island, c'est une grande île située dans l'État de Washington, en plein cœur du Puget Sound.
Puget Sound.
Puget?
Yeah.
Oh.
Yeah.
À environ 1h30 de Seattle, selon la route ou le traversier. C'est une place qui a vraiment une vibe du Pacifique Northwest, des forêts épaisses, des falaises, des plages de galets, souvent un ciel brumeux. C'est un décor qui donne l'impression que le temps ralentit. Sur l'île, on retrouve quelques coins importants comme Oak Harbor, qui est le plus gros centre urbain au nord. Coupeville, un village historique super charmant au centre. Puis il y a Langley qui est au sud, pas Langley OBC. Mais Langley sur la même île que je viens de te nommer. C'est plus artistique à peu près. Là. J'essayais de trouver c'était quoi les vibes de chaque petit coin.
Mm-hmm.
Côté nature et activité, Whidbey est rempli d'endroits magnifiques. Il y a Ebbie's Landing, c'est un incontournable pour les randonnées. Apparemment que les vues sont impressionnantes, qu'il y a beaucoup d'eau, qu'il y a des champs. Il y a Fort Casey qui attire les gens pour ses vieux bunkers puis son côté exploration. Fort Ebbie State Park offre des sentiers parfaits pour décrocher en pleine nature. Puis l'île est aussi connue pour sa proximité avec Deception Pass. Puis là, je sais pas trop c'est quoi Deception Pass, mais il y a un pont qui est spectaculaire, apparemment. Puis il y a une présence militaire super importante. Un petit fun fact de l'île de Whidbey. L'île tient son nom de Joseph Whidbey, un officier britannique lié aux explorations de la région. La population est d'environ 70 000 habitants, puis le taux de crime est nettement plus bas que la moyenne nationale et les meurtres sont très rares. L'histoire d'aujourd'hui se déroule en 2004, mais commence à Whidbey Island en 2003. En 2004, j'étais en secondaire 2 ou 3. Les hits qui passaient toujours à Musique Plus, c'était Hoobastank, The Reason.
Hoobastank, quel nom de band. Je m'en souviens d'eux.
Ouais, c'est ça. Il y avait la toune de Outkast, Aya, qui sortait cette année-là.
Oh my God. Shake it like a Polaroid picture. Polaroid a sorti un fucking communication de presse qui dit « Shake pas tes Polaroids parce que ça va endommager l'intégrité de l'image.
Oh. »
So, laisse-le développer tranquillement.
Tout ça.
Shake ça pas.
Shake ça pas. Aussi la toune de Three
Doors Down.
Am I Russian? Three Doors Down. Here Without You. C'est aussi l'année de Evanescence, My Immortal.
My Immortal.
Linkin Park, Numb.
Oh, Stinkin' Park.
Britney Spears, Toxic.
Oh my God, Toxic, ça c'est un banger.
Snoop Dogg, Drop It Like It's Hot, Drop It Like It's Hot, puis Eminem, Just Lose It. C'est aussi la fucking année où Slipknot a sorti l'iconic Push My Finger Into My
Ass!
c'est volume 3 de Subliminal Verse.
Oh my God.
Il y a aussi Killswitch Engage qui a sorti l'album The End of a Heartache, puis Cradle of Filth and Amphetamine. Fait que c'est ça la vibe de cette année-là. On se rappelle. Bon.
Il y avait des bangers en masse.
Le 26 décembre, il y a deux femmes de Whidbey Island qui décident d'aller prendre une marche, même s'il pleuvait. On n'est pas au Canada. Il n'y a pas vraiment beaucoup de neige. OK. La température était grise, mais pas super froide, donc environ 4 degrés Celsius.
OK. All right.
Les deux femmes marchent, puis remarquent un VUS jaune, un Geo Tracker.
Oh my God. OK.
Stationné d'une drôle de manière devant une maison voisine. La maison est entourée d'arbres. Les femmes savent que la famille qui habite là sont parties au Costa Rica pour les vacances de Noël, mais elles savent aussi que parfois, cette famille invite des amis à venir passer des vacances dans leur maison pendant qu'eux n'y sont pas. Par contre, il y avait de quoi de louche dans le positionnement de la voiture. Puis la lumière à l'intérieur de la voiture était allumée. Les deux femmes se disent qu'elles allaient revenir voir demain si la voiture était encore là, puis si c'était nécessaire, ils allaient appeler les autorités. Mais il y a quelqu'un d'autre qui l'a fait avant les femmes. Une autre personne avait remarqué justement le lendemain cette voiture-là. Puis la personne, ben, elle a aussi remarqué que la porte était ouverte. Se disant, il faut économiser la batterie, tu sais, la personne est allée pour fermer la porte. Mais c'est là qu'en fermant la porte, ben, il a vu que Russell Douglas, 32 ans, il était encore attaché devant son volant, les yeux fermés, avec une balle dans le milieu du front.
D'où Jésus, exécution. Russell Douglas, by the way.
C'est quoi que j'ai dit?
Douglas. Oh. Ça, c'est réservé pour Monsieur Douglas.
Douglas. Ouais.
Callback à un autre épisode. Non, c'est un victime. On va prendre le temps de dire son nom bien.
Russell Douglas. La personne qui appelle le 911 va dire il y a de quoi de gluant qui sort de son front.
Ugh, c'est fucking cerveau.
Les policiers puis les paramédics sont rapidement arrivés sur place, mais malheureusement, il était déjà trop tard. La rigidité cadavérique était clairement installée. C'est un phénomène naturel qui rigor mortis.
Yeah.
Ouais. C'est un phénomène naturel qui survient après la mort. Hein. Les muscles deviennent durs et figés parce que le corps n'a plus d'énergie pour les détendre. En général, la rigidité cadavérique commence de 2 à 6 heures après le décès, souvent par la mâchoire et le cou. Ça s'installe complètement à peu près vers 12 heures, puis ça disparaît graduellement, après 24 à 48 heures quand le corps commence à se décomposer.
Really?
Ouais.
Je savais pas que ça passait assez super vite, puis ça passait raisonnablement vite aussi.
Ça dépend de la température aussi.
C'est sûr, si c'est frais.
Ça va mieux, si c'est frais. Mais ça va mieux dans le sens, ça va moins vite.
yeah. Ça va prendre du temps avant que la décomposition commence.
Mais quand il fait chaud.
C'est vite.
Tout de suite, les experts pensent à un suicide. La voiture est près d'une maison, oui. Mais tout de même dans un endroit un peu isolé, caché par des arbres. Aussi, le taux de suicide de Whidbey Island est malheureusement plus haut que la moyenne. Le seul problème avec cette hypothèse-là du suicide, c'est qu'il n'y a pas d'arme à feu dans la voiture.
Yeah, c'est dur de crisser un balle dans son tête sans arme à feu.
Puis lancer le gun plus loin ou aller le ranger où il allait, mettons.
ça marche pas.
Russell Douglas est né le 9 septembre 1971 à King City, en Californie. Il a fait des études universitaires à la Central Washington University, où il a obtenu un diplôme en géographie puis en aménagement du territoire en 1993. En 2003, il travaillait pour Tetra Tech. Il a toujours été très doué avec les ordinateurs. Russell, il était marié avec Brenna Douglas. Ensemble, les deux avaient 2 enfants, Jack, 8 ans, puis Anna, 5 ans. Leur mariage n'allait pas super bien. En fait, les deux étaient séparés depuis quelques mois, puis ils habitaient plus ensemble. Brenna louait une maison qui appartenait à son amie qui habitait maintenant à Las Vegas, Peggy Sue.
Peggy Sue. Peggy Sue. Peggy, 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 Peggy Sue.
Peggy Sue.
I love you, my Peggy Sue.
Russell, lui, il s'était loué un appartement à Langley sur l'île. Mais pour le temps des fêtes, Brenna puis Douglas, ils ont décidé. Russell, pardon. Brenna puis Russell, ils ont décidé d'essayer de recommencer à se voir tranquillement, puis éventuellement réessayer à nouveau là, de devenir un couple. Ils ont deux enfants ensemble, puis c'est ça, ils se sont séparés un petit peu. Puis le temps des fêtes, c'était comme un bon moment pour essayer de se rassembler.
Do it for the kids.
Vers 10h15 le soir, les policiers vont cogner à la porte de Brenna pour lui annoncer que son mari est malheureusement décédé. Fait qu'il cogne à la porte, puis Brenna ouvre la porte. Elle les invite à rentrer. Brenna leur demande qu'est-ce qui se passe et les policiers lui répondent qu'ils veulent lui parler de son mari. Brenna ne prend pas trop de temps à se mettre à l'aise puis à répondre à toutes leurs questions. Elle parle en long puis en large de Russell, en mal. Elle explique que Russell n'était pas un bon mari, qu'il l'avait trompé plusieurs fois, une fois même avec un homme, puis elle trouvait ça déviant. Puis là, je veux juste en profiter pour dire que Brenna allait beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'église. Fait que l'homosexualité pour elle, c'était pas naturel. Tu comprends? Elle continue pendant un bout de parler de la déviance de Russell sur plusieurs aspects. Là. Je vais en glisser un mot plus tard.
Mais quand les polices viennent pour annoncer la mort de ton mari ou ton ex, puis tu talk shit tout le long. Ça te met pas dans la meilleure position. Ça va amener des suspicions.
Mais c'est ça qui est weird, là. C'est que ils ont même pas encore annoncé à Brenna qu'il était mort.
So what?
Ils ont juste dit genre...
Il est probablement en trouble avec les polices. Ah, c'est un vrai croquet dommage. Je vous dis, écoute-moi, le dude, c'est un fucking douchebaguette. Écoute ça, il a fait toucher son pipi par un autre gars. Est-ce que c'est wesh, wesh, wesh?
Mais c'est ça qui est weird, c'est qu'elle pose pas de questions. T'sais, elle dit oui, qu'est-ce qui se passe? Puis là, elle commence à dire on veut parler de ton mari, puis là, elle commence à parler du mari. Mais tu sais, moi, il y a des policiers qui arrivent ici qui me parlent de toi. Tout de suite, je suis comme qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce qu'il y a?
Oh, yeah. On aimerait te parler à propos de ton mari, Colin. Puis Jennifer va dire pourquoi?
Ils ne sont pas ici pour le fun. Là. Il sait pas. Si les policiers viennent, se déplacent, c'est passé de quoi de grave. Là.
Hell yeah. Soit que je suis en trouble majeur ou je suis mort.
Puis là, elle explique que pour Noël, en plus, là, hein, pour vous prouver à quel point il est déviant, là, à Noël, il m'a acheté de la lingerie, des condoms avec des saveurs, puis une balançoire sexuelle. A sex swing. Très salace.
Russell. Salace, épicin.
Lui, il essaye de mettre du piquant dans leur vie sexuelle, puis elle est comme, c'est de la déviance.
Les swings, c'est pas les enfants, c'est pas pour le sexe.
Après 45 minutes, là, Brenna n'a toujours pas demandé au policier pourquoi il était là. T'sais, elle a dit au début, qu'est-ce qui se passe? Puis elle dit, on veut te parler de ton mari, puis là, on en parle, mais t'sais, elle dit pas, OK, elle pose pas plus de questions que ça.
Très suspect.
Eux autres qui ont noté ça dans leur petit calepin. Là.
Hell yeah! Avec raison.
Oui. Puis quand ils finissent par annoncer à Brenna que Russell a été retrouvé mort dans sa voiture, puis qu'il a reçu une balle dans le front, Brenna répond « Oh! » Parlons-en de Brenna. Brenna avait un salon de coiffure. Selon elle, son salon était très populaire. Selon ses factures, elle était plutôt très endettée. Brenna avait aussi promis à son amie Peggy Sue qu'elle allait acheter sa maison. C'était ça leur entente. Je la loue un bon bout jusqu'à ce que je puisse te l'acheter. Tu sais, Peggy Sue était rendue à Las Vegas maintenant. Fait que elle, ça faisait son affaire de louer sa maison, mais elle voulait éventuellement la vendre. Brenna était aussi celle qui allait avoir l'héritage de Russell au cas où il décède. Puis on parle ici de à peu près 1 million. Là. Donc c'est quand même de l'argent, surtout en 2003.
Puis elle était endettée un petit peu beaucoup. Je pense que je vois où ça va, ça.
Alors ça, plus son attitude quand les policiers sont allés la voir, ont fait en sorte qu'elle était vraiment dans la mire des policiers. D'ailleurs, Brenna va faire une réclamation aux assurances quelques jours seulement après le décès de Russell. Tu sais, c'est pas... comment je pourrais dire? c'est pas si weird que ça. Parce que, tu sais, quand quelqu'un décède, t'as beaucoup de choses à faire, dont appeler les assurances. T'sais, ça fait partie de la liste de choses à faire. Sauf que,
oh, yeah.
Sauf que quand, mettons, dans un cas où la mort, tu sais même pas encore comment la personne est morte, que c'est non résolu, c'est, ça semble précipité.
Yeah.
T'sais,
tu devrais être plus concerné à trouver le coupable que chercher l'argent.
Mais c'est surtout aussi que, oui, c'est des choses à faire, là, tout ça.
Yeah,
mais pas genre une semaine après. En tout cas, ça dépend du contexte.
Mm-hmm.
Mais je sais pas. T'sais, c'est sûr que c'est mal vu. Le gars, il est mort. Elle est weird. Il y a rien qui est réglé. T'sais, il y a absolument rien qui est réglé. Mais la première chose qu'il a fait, c'est appeler mm-hmm. les assurances. C'est ça.
Mm-hmm.
Quand je dis il n'y a rien qui est réglé, c'est genre ben l'enquête, les funérailles, l'appartement de Russell. Tu sais, faut que tu vides ça, faut que tu sais.
Mm-hmm.
Je sais pas. Bon. Mais comme les policiers ne pouvaient pas encore tout à fait l'exclure de la liste des suspects, la demande ne pouvait pas être traitée par les assurances. Mais il faut tout de même noter ici que Brenna avait un alibi béton au moment du meurtre. Elle était avec des amis qui ont été en mesure de confirmer cet alibi-là. Il faut aussi noter que Brenna a refusé de passer un test de polygraphe, ce qui a pu être perçu comme suspect, même si on sait à quel point c'est pas exactement toujours fiable, un polygraphe. Mais elle a le droit de refuser, mais ça ajoute à toutes les circonstances.
Mm-hmm. C'est déjà louche, puis elle empire la situation.
Ouais. Les autorités contactent maintenant Peggy Sue Thomas, la propriétaire de la maison que Brenna louait. Peggy Sue vivait maintenant à Las Vegas, baby, puis conduisait des limousines à temps plein. Pourquoi les détectives veulent parler à Peggy Sue? Ils ont contacté Peggy Sue. J'aime ça dire Peggy Sue.
Oh yeah.
Les policiers ont contacté Peggy parce que en analysant l'historique téléphonique de la victime, Russell, il y a un détail qui a immédiatement sauté aux yeux des détectives, justement. Il y a un numéro qui ne faisait pas partie de sa routine habituelle. Les enquêteurs regardent toujours les patterns, OK? C'est qui t'appelle normalement, à quelle fréquence, à quelle heure, famille, collègues, amis, proches. Ils regardent c'est quoi ton habitude d'utilisation de ton téléphone, par exemple.
Mm-hmm.
Puis le numéro de Peggy Sue, il ressortait parce que c'était le seul numéro qui était de l'extérieur. C'est un numéro de Las Vegas. Puis il n'avait pas l'habitude de lui parler à elle. Fait que pourquoi, là, quelques jours avant son meurtre, il contacte cette personne-là quelques fois? Je pense que c'était comme à peu près 5 fois.
OK.
Oui, c'est ça. Il a composé 5 fois le numéro dans les jours précédant sa mort, puis il n'avait jamais composé ce numéro-là avant.
Ça, c'est Russell qui appelle Peggy Sue. OK, mm-hmm. All right.
Peggy a expliqué aux policiers qu'elle était en ville pour les fêtes et qu'elle voulait donner à Russell un cadeau pour Brenna. Brenna et Peggy sont des bonnes amies, elles se connaissent depuis longtemps, ils ont déjà travaillé ensemble au salon de coiffure de Brenna. En fait, l'affaire ici, c'est que les deux avaient fait un pacte comme de quoi elles n'allaient pas se donner de cadeau de Noël.
OK.
Fait que Peggy Sue était comme, moi, je vais en donner un comme surprise, mais je veux pas qu'elle le voie. Fait que c'est ça l'excuse pourquoi elle utilisait Russell. OK.
OK.
Puis pourquoi? Ben, il l'a appelé 5 fois. Ben, Peggy a dit, on a joué au chat et à la souris pour se rejoindre. Là, je l'appelais, il répondait pas, il m'appelait, je répondais pas. Fait que c'est pour ça qu'il l'aurait appelé 5 fois.
Mm.
Puis on finit par se rejoindre, puis qu'elle a pu lui donner le cadeau pour Brenna. Elle l'a vu environ 5 minutes. Voilà. Les enquêteurs ont passé beaucoup de temps à interroger beaucoup, beaucoup de monde aussi à la compagnie où Russell travaillait, Tetra Tech. Les employés avaient plein de belles choses à dire sur Russell, mais une chose en particulier a retenu l'attention des policiers. Je ne serais pas surprise que Russell, c'est une employée qui avait dit ça, là. Je ne serais pas surprise que Russell se soit suicidé. Honnêtement, il a eu une enfance vraiment difficile, surtout avec sa mère. Fait que là, les policiers sont comme OK. Mais on a déjà parlé, la thèse du suicide, mais ça tient pas parce qu'il n'y a pas d'arme à feu dans l'auto. Puis c'est une balle qu'il y a dans la tête.
T'sais. Yeah, c'est pas comme s'il avait mis une balle sur le steering wheel puis frappé son tête là-dedans.
Je penserais pas que ça marche.
No!
Bon. Là, il y a les jours passent, les semaines, les mois, puis l'enquête avance pas vraiment. On avance à la fin juillet 2004. Environ 7 mois après le meurtre, le poste de police de Whidbey Island reçoit l'appel de quelqu'un qui, à la base, souhaitait rester anonyme. Puis la personne dit, Avez-vous un meurtre non résolu qui se serait produit aux alentours de Noël 2023?
Puis ils sont comme « Oui? »
Le détective répond « Oui. » L'homme dit « J'ai des informations, mais j'ai peur d'en parler. »
Au tabarnak!
Le détective et l'homme parlent un peu. Fait que l'homme finit par devenir un peu plus à l'aise, puis il dit « Avez-vous fait le lien entre une personne qui travaillait au salon de coiffure de la femme de la victime et qui est maintenant déménagée à Las Vegas? »
Peggy Sue.
La planque qui est restée anonyme, pas longtemps, je vais en parler plus tard, raconte que les policiers doivent investiguer le chum de Peggy Sue. James Huden. Huden.
OK.
H-U-D-E-N.
H-U-D-O-N?
D-E-N. James Huden.
Sure.
L'affaire ici, c'est que Laplan joue dans un band avec le chum de Peggy. Puis il dit que c'est justement le chum de Peggy qui lui a dit qu'il avait commis un meurtre. Ce gars-là, il est dans le même band que le chum de Peggy. C'est le meilleur ami de James. Puis il dit James m'a dit qu'il avait tué quelqu'un.
As-tu des informations sur le band?
Je le nomme plus tard. C'est Buck Naked and the Exhibitionist.
Wow. Buck Naked and the Exhibitionist. Ça, c'est quelque chose. James... C'est comme Bare Naked Ladies. Quelque chose comme ça, tu sais. Anyway.
James Huden habite en Floride avec sa femme, mais il y a une blonde, Peggy Sue, à Las Vegas. James, il y a aussi un frère sur Whidbey Island. Tu sais, là, ça commence tout à se lier ensemble.
Mm-hmm.
C'est d'ailleurs en allant visiter des gens qu'il connaissait à Whidbey Island qu'il a rencontré sa maîtresse, Peggy Sue. James, il y avait son band que je viens de te nommer. Puis pour justifier ses allers-retours à Vegas pour aller voir Peggy Sue, il avait dit à sa femme qu'il y avait souvent des gigs à Vegas, mais son band, c'était rien de glamour. Là. C'était un petit band. Il faisait pas une residency à Vegas, mettons. Là.
Right.
Mais on dirait que c'est ça qu'il avait dit à sa femme. Puis il pouvait vivre à temps plein de son band, pas parce que son band rapportait beaucoup d'argent, mais parce que lui, là, James, il avait travaillé dans l'informatique avant, puis il avait vendu son programme à Microsoft.
OK.
Fait qu'il avait...
Il était millionnaire, déjà. T'sais, il peut passer le restant de ses jours gratter son git. Puis
ben, je pense que c'était comme 1 million, mais en 2003, 1 million, c'était quand même beaucoup d'argent. Ben, encore aujourd'hui, c'est beaucoup d'argent, mais je veux dire, t'sais, dans ce temps-là, je pense que c'était... C'est ça, je pense qu'il a pu arrêter de travailler.
That's it. Puis tu fais un couple de gigs par semaine ici et là, puis ça te rapporte une couple de centaines de dollars, puis that's it. Tu vis un vie simple, ça c'est se fait. Ça.
Mais justement, Colin, au lieu de vivre la belle vie simple, jouer de la musique, faire des petits shows, s'amuser, relaxer, oui, il faisait tout ça, mais il prenait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'alcool, puis son mode de vie le rendait malade, puis il a aussi décidé de planifier un meurtre. Puis il l'avait dit à sa femme, puis à quelques amis aussi, pourquoi pas?
Loose lips, sink ships.
C'est quoi son lien avec Russell?
Mm-hmm.
Peggy Sue, elle a été mariée 3 fois, puis à chaque divorce, elle a reçu un bon petit moton de cash. On parle aussi de millions. T'sais, elle a marié à des gars bien riches, là. Puis c'est surtout son dernier divorce qui l'a rendu vraiment, vraiment aisée. Rendue à Las Vegas, elle était super bien, elle gagnait bien sa vie, mais tu sais, elle en voulait plus. Puis comment en avoir plus? Ben, en vendant sa maison à Whidbey Island.
Mm-hmm.
C'est qui était supposé acheter la maison?
Russell?
Brenna.
Really?
Mais Brenna, elle n'avait pas d'argent. Elle était endettée jusqu'au cou. Comment avoir plus d'argent?
Oh, les assurances.
Ben oui.
La crise folle.
En tuant son mari. Tout fait bien du sens là-dedans, tu sais. Ah oui.
J'aime pas ça.
Ils sont beaucoup de personnes. Puis, mais là, James Huden là-dedans. C'est pourquoi il dirait oui à tuer quelqu'un qu'il connaît pas, puis il a déjà 1 million, puis il vit sa petite vie.
Ouais, il veut un cut, quoi.
On le savait déjà, mais c'est là qu'on va se dire aussi, ce petit cornet.
Oh boy.
Bon, James... Il s'y fait abuser physiquement par son beau-père quand il était jeune. Genre, il se faisait battre par son beau-père, OK?
OK.
On sait pour sûr que Russell trompait Brenna puis qu'il avait eu plusieurs aventures puis qu'il prenait parfois de la drogue. Ce qu'on peut pas prouver, par contre, c'est qu'il était violent avec elle. Il n'y a jamais eu de plainte à la police. Il n'y a personne qui a été témoin. Il n'y a personne qui a vu Brenna avec des bleus. Est-ce que ça veut dire que c'est pas arrivé? Non, mais on peut pas le prouver non plus. Fait que là, tu vas voir où je m'en viens avec ça. Pour James, tuer Russell, c'était comme une vengeance pour son beau-père parce que il pensait que Russell il était abusif. Fait qu'il était comme, ah ah, je vais assouvir ma soif de vengeance en frappant, en tuant un autre homme abusif. Puis aussi, il allait avoir 50 000 piastres.
OK. I mean, ça marche pas, ça. C'est pas kiff-kiff.
Ça, je t'ai dit, c'est un crise de cornet.
Oh, that's it. Ça pue, la douchebaggerie.
Allez, c'est trois adultes là, qui se sont dit, ben oui, quelle bonne idée.
Je vois pas la justification. Ça, c'est wild.
C'est, j'ai pas de mots.
Non. C'est stupide.
Puis il y a quelqu'un qui est mort.
Hell yeah.
Parce qu'ils l'ont fait.
Pauvre Russell.
Les détectives prennent donc l'avion puis se rendent en Floride pour interroger James Huden. James, il est bien stressé. Il dit qu'il comprend pas trop pourquoi les policiers sont là. Je le comprends d'être vraiment stressé parce qu'une des premières choses que les policiers lui ont dit, c'est « James, on traverse pas la moitié du pays pour rien. »
Hell yeah! Puis il sait pourquoi ils sont là.
Ben oui, c'est ça.
Mm-hmm.
Il finit par dire qu'il n'y a rien à voir dans cette histoire-là, que la seule chose qu'il a faite, c'est d'aller porter un cadeau à Russell pour Brenna de la part de Peggy. Mais tu sais, tu te rappelles, les policiers ils ont déjà demandé à Peggy... Les policiers ont déjà parlé à Peggy, puis Peggy a dit que c'est elle qui leur a mis le cadeau, fait que c'est un petit peu weird, là, mais bon.
Mm-hmm.
Fait que là, les policiers, ils écoutent James, puis ils sont comment qu'il est allé lui porter le cadeau. C'était quoi l'interaction que tu as eue avec Russell quand tu l'as vu? James, il dit, ben ça a duré juste quelques minutes, voire même quelques secondes. Je lui ai dit, est-ce que c'est toi le mari de Brenna? Il dit que Russell lui a répondu oui, puis que là, James lui a donné le cadeau. Selon lui, Russell savait qu'il allait rejoindre quelqu'un pour prendre un cadeau pour Brenna.
C'est quoi? Il va aller de Floride à Washington pour donner un cadeau?
Non, mais il était dans le fond, dans le temps okay, des fêtes, okay, il était avec okay, Peggy okay, okay. Sur Whidbey Island.
Pardonnez.
Ben, je sais, c'est compliqué parce que là, il y a Las Vegas, il y a la Floride, il y a Whidbey Island.
That's it. I mean,
James, il y a une femme puis une maison en Floride, mais il va aussi à Whidbey Island de temps en temps parce qu'il connaît du monde là-bas. Puis c'est là qu'il a rencontré Peggy Sue, pas cette année-là, mais à un moment donné. Fait que, puis ben, comme Peggy a vie à Vegas, mais qu'elle revient de temps en temps aussi à Whidbey Island, ben, lui, pour aller voir sa blonde, il va à Vegas la voir.
Okay.
Même s'il y a une femme en Floride.
That's wild.
Ben oui.
Oh my God, Jennifer. Leur histoire, c'est le fucking fromage suisse. C'est plein de trous.
J'aime ça. Swiss cheese.
Swiss cheese.
C'est notre prochaine expression. Ça marche pas, ça. Swiss cheese. Les policiers sont certains de tenir leur homme, mais ils n'ont pas assez de preuves puis ils doivent tout de même le relâcher. Ils n'ont pas de traces d'ADN ou de preuves scientifiques qu'ils placent au même endroit que Russell. Le gars qui a appelé, qui voulait rester anonyme, là, je l'ai dit tantôt, c'était le meilleur ami de James, puis il était dans son band. Pendant l'interrogatoire, les détectives, ils ont vraiment essayé de jouer avec les émotions de James en disant « Hey, on sait plus de choses que tu penses. Ton meilleur ami nous a appelé pour nous dire ce que tu lui avais dit. Ce secret-là que tu lui as dit, là, c'est en train de le gruger, c'est en train de gâcher sa vie. Il se sent fucking mal, puis c'est ton meilleur ami in the whole world.
Mm-hmm. »
Puis James il a répondu « Non, je vous crois pas. Je suis un fils de pute, mais je ne suis pas un tueur.
I'm a son of a bitch, but I'm not a killer.
Exactement.
No way. Well,
I'm a son of a bitch, but I'm ain't no killer.
Au moins, il s'assume.
Ah, c'est justement, dans le fond, là, tout ça s'est orchestré une fois que Brenna est allée voir son amie Peggy Sue à Las Vegas. Puis elle aurait dit à Peggy que son mari valait plus mort que vivant à cause des assurances parce qu'elle savait très bien qu'elle allait recevoir des assurances dans le cas où il décédait. Puis en plus, elle faisait semblant aux policiers qu'elle savait pas qu'il y avait des assurances genre en son nom. Anyways. C'est ça. C'est Peggy qui a dit « Ouais, t'aurais beaucoup d'argent pour les assurances. mon chum pourrait le tuer.
It's not good.
Puis chum, il était comme, bah ouais, je vais venger mon beau-père. Puis avoir 50 000 piastres, là, faut pas oublier.
Mais, come on, man.
Les gens deviennent greedy, tu sais, t'en as jamais assez.
Yeah.
Tu es radin ou t'en veux toujours plus.
Ah, c'est dégueulasse, Jennifer.
Fait que le plan, c'était d'attirer Russell dans un endroit sombre, tard le soir, en lui disant ben, qu'il devait prendre un cadeau pour Peggy pour Noël. De Peggy pour Brenna pour Noël. C'est une surprise qu'il fallait pas que Brenna voie. Russell s'est donc rendu en voiture. Il a baissé la fenêtre pour prendre le cadeau. Puis, ben, le cadeau, c'était une balle dans la tête, finalement.
Surprise!
James l'attendait, là. Puis, je pense que pendant qu'il attendait, ou tu sais, quand il a vu la personne s'approcher, James s'approcher, Peggy Sue, elle lui parlait au téléphone pour le
faire une distraction.
Ouais, c'est ça.
Yeah.
James, il avait donné l'arme à feu à un ami pour s'en débarrasser après le meurtre, puis il l'a mis en question, l'a rapporté au policier, puis la douille retrouvée dans la voiture de James, c'est un match pour les... pas de James, la douille retrouvée dans la voiture de Russell. Ils ont trouvé une douille comme dans la porte, là.
Mm-hmm.
Elle matchait pour les balles qui vont dans cette arme-là. Les policiers sont maintenant prêts à arrêter James. Mais là, ils le trouvent plus. Parce que, tu sais, ils l'ont relâché de l'interrogatoire.
That's it. So, il va crisser son fucking camp.
Surtout qu'il y a eu un ouragan en Floride cette année-là. Fait que ça a ralenti le processus policier, là.
Mm-hmm.
Puis James, il a profité de tout ça pour prendre un avion puis sacrer son camp au Mexique.
Pfiouh.
C'est sa femme. Oui, sa femme, la cocu, là. Qui savait qu'elle était cocu, qui savait qu'il avait planifié un meurtre, parce qu'il l'avait dit à sa femme aussi. C'est sa femme qui l'aidait à rester caché au Mexique en lui envoyant de l'argent régulièrement. James était rendu prof de guitare au Mexique.
Really?
Mais à un moment donné, sa femme était tannée de l'aider financièrement. Elle gagnait rien de tout ça, elle. C'était comme, si, il revient pas, puis moi, il faut que j'envoie de l'argent. Pourquoi je fais ça? Fait qu'éventuellement, elle a décidé... Excuse-moi, je la trouve vraiment conne, là. Éventuellement, elle a décidé de le dire aux policiers, puis eux sont allés le chercher. En 2011, il a réussi à s'en sortir pendant 7 ans.
D'où, Jésus? C'est une belle petite séjour au Mexique.
Les empreintes digitales de Peggy Sue ont été trouvées sur l'arme à feu utilisée pour tuer Russell. Les empreintes de James aussi. Les deux ont été accusés de meurtre.
Hell yeah!
James a reçu une sentence de 80 ans de prison.
Oui.
Peggy a plutôt reçu une sentence pour avoir assisté au meurtre. Elle a reçu 4 ans, mais elle a pu sortir après le procès parce qu'elle avait déjà passé du temps en prison en attendant
no
le procès.
No way! Puis 80 plus... et 4?
Parce qu'elle n'a pas tiré la balle.
Who gives a fuck? Elle était un
accessoire.
Un accomplice intégral.
Oui, mais elle a fait un plea deal.
This bitch.
Puis Brenna Douglas.
Douglas.
Brenna Douglas a rien reçu.
Comment ça?
Aucune accusation.
Elle a organisé tout ça pour avoir le cash.
C'est quoi les preuves?
Elle dit, je vais te payer 50 000 ici. Je te lance un petit montant de cash là-bas. Non, non, non. Shut the front door, Jennifer. Ça, c'est fucking wild.
Aucune preuve. Puis ça veut dire que Peggy, elle a jamais jeté son ami under the bus, là.
Peggy's a real one. Reine de glace.
Puis James aussi, il a jamais essayé de dire que c'était juste Peggy. Peggy, elle a essayé de dire que c'était juste James.
This bitch.
Ouais.
Oui. My God.
Ouais. Mais Brenna, elle a pas reçu l'argent au complet parce qu'en tout cas, c'était les circonstances de la mort étaient weird, mais elle a reçu une partie de l'argent.
Ça, c'est dégueulasse.
C'est frustrant.
Oh my God, j'haïs ça.
C'était ça, mon histoire.
Oh, c'est le faire de justice. C'est où la justice, Jennifer?
Je sais pas.
Oh, tu me fais chier avec celle-là, Jennifer.
Ouais.
Oh, ça, c'est la peur du spaghetti.
Genre, le Russell Douglas, il est mort.
Yeah.
En allant chercher, il était content d'aller chercher un cadeau pour sa femme. Ben, sa femme, ça allait pas bien, mais il essayait d'arranger ça. Il a acheté une balançoire sexuelle, c'est des condoms à saveur, t'es comme ça va bien aller. Puis, il s'est fait tirer une balle dans le front. Puis, ces trois adultes qui se sont dit ensemble,
J'ai jamais compris le pourquoi des condoms avec des saveurs. Un fucking pip avec un condom, c'est whack. Anyway, frappe-moi donc avec tes sources, Jennifer.
Neighborhood Scout, Wikipédia. C'est pas tout le monde que ça fait 13 ans qu'ils sont ensemble.
I guess so, but quand même. Whack!
Le livre Practice to Deceive par Anne Rule, c'est là que j'ai eu le plus de détails. WhitbyNewsTime.com, SouthWhitbyRecordCurd.wa.gov. Voilà, gang. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Allez voir notre Instagram pour voir des photos. Puis, like, subscribe. On peut faire des commentaires maintenant sous les épisodes, sur Spotify, du moins. Vous pouvez écrire des petits commentaires. Je vous aime beaucoup.
Jennifer veut ses 10 000 sur Instagram.
Je veux le dire. Je veux 10K parce que c'est comme si on allait être un vrai podcast à 10K. C'est comme, OK, c'est une page professionnelle.
That's it.
C'est gentil.
Puis on va pas acheter des followers. Non.
Puis
ça, c'est un crosse dégueulasse.
On le sait combien de listeners qu'on a par mois, là.
Puis je sais que la plupart de vous autres sont pas des followers sur Instagram. Take donc follow.
Mais on le pimpe, notre Instagram, là.
Yeah.
On se force, là.
C'est cool. Il y a
fait
des
choses, là. Des clips, puis des belles photos, puis on y va à fond. On est bon.
Ça roule.
Bye, gang. Merci.
Bye. On vous aime. À la prochaine.